Vendredi 14 septembre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette première édition de la saison 2012-2013 de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et surtout très, très content de revenir ici dans les studios de CKRL 89.1 pour vous proposer cette incursion hebdomadaire dans l'univers du 9e art, de la bande dessinée, de l'illustration, du manga, du fanzine, du comics, bref, de tout ce qui nous fait vibrer ici à La Vie en BD. Et évidemment, ben, on espère revenir avec autant d'énergie avec qu'on avait commencé l'année dernière, donc avec beaucoup d'invités, beaucoup de rencontres. J'avais fait le décompte à la fin de l'année 2000, la saison pré-dernière, et je m'étais rendu compte qu'on avait reçu près de 80 auteurs au cours de la saison. Alors, on essaiera de réitérer à nouveau ce jalon, ce nombre. Évidemment, on avait porté beaucoup de regards également sur des albums, sur des sorties récente dans la sphère francophone, et on réitérera une nouvelle fois avec ça, même un peu plus d'emphase sur cet axe-là. On aura l'occasion d'avoir beaucoup de collaborateurs au cours des prochaines semaines qui seront avec nous: Marco Duchesne, Marie-Olivier, Stéphane Gravel, Thomas-Louis Côté, Michel Giguère, Mathieu Place, qui nous partageront à différents niveaux, sur différents axes, leur passion de la bande dessinée. Mais ça, c'est pour les semaines à venir. Vous l'avez peut-être vu passer sur les différents médias sociaux sur lesquels CKRL ou La Vie en BD est engagée, sur le web également. Eh bien, on vous commence la saison avec une rencontre bien spéciale, un auteur que j'apprécie énormément, qui était de passage cet été à l'occasion d'une résidence d'un mois, une résidence qui le ramenait sur les terrains de son enfance et de son adolescence. C'est un auteur qui est natif de Charlebourg, mais qui s'est illustré en Europe notamment, qui a remporté en 2012 le Fauve d'or au Festival d'Angoulême, donc la plus haute distinction qu'on peut remettre à un auteur BD. C'est celle-là, et lui l'a reçue pour son excellent livre « Chronique de Jérusalem » qui figurait d'ailleurs parmi les coups de cœur de l'équipe en janvier dernier, à qui on a eu le plaisir aussi au Festival de BD de Québec de remettre le BDisque aux du meilleur album francophone publié à l'étranger. Alors vous aurez deviné que je parle ici de Guy Delisle. Et donc cette première édition de La Vie en BD pour cet automne et cet hiver, eh ben, lui sera consacrée. On a eu le plaisir en août dernier de passer une heure en sa compagnie, de revenir sur sa résidence et de parler de son travail, notamment au niveau de son travail documentaire, sur ses projets autres que son travail documentaire également. Alors, ben, tout ça au cours de l'heure qui vient, donc une émission spéciale avec Guy Delisle. Et pour nous y rendre, pour nous démarrer, pour nous diriger vers cette entrevue, eh ben, on écoute un petit extrait de la formation Keppelcraft. We'll be right back.
Alors, on le prend au terme d'une résidence d'auteur d'un mois à Québec qui s'est étendue tout au long du mois de juillet. Et on est bien content qu'il ait accepté notre invitation ici à La Vie en BD. Guy Delisle, bonjour.
Bonjour.
Alors, une résidence à Québec qui est un peu un retour aux sources, dans le fond, pour toi, puisque tu as grandi à Charlebourg. En fait, tu viens de Charlebourg.
Ouais, j'ai passé la moitié de ma vie à Charlebourg. Après, j'ai fait des études à Sainte-Foy. Et après, en art plastique, Sainte-Foy en art plastique. Et après, je suis allé à Toronto faire du dessin animé. Et après, j'ai travaillé à Montréal et je suis parti en Europe. Ce qui fait que je suis toujours passé à côté de Québec. J'ai jamais habité dedans. Mm-hmm. Et c'est une ville que je connais sans la connaître. Donc, pour moi, revenir ici en résidence, c'était vraiment m'approprier en fait une ville que je connais mais que par fantasme un peu. Donc voilà, j'ai eu un mois pour me promener dedans et faire des croquis.
Et tu t'es beaucoup promené, beaucoup d'exploration, ou est-ce que tu partais avec un trajet prédéterminé en disant ben je vais aller là, je veux voir telle chose parce que j'ai des souvenirs de ça, de ci.
J'avais plusieurs idées qui étaient floues, comme le sont souvent les projets où on s'imagine quelque chose et finalement quand on le creuse, on se rend compte qu'on avait une idée assez floue d'un projet qui des fois réside juste sur une couleur, un sentiment, une sensation. Et des fois, c'est suffisant pour creuser plus loin et que ça s'ouvre sur un projet. Et donc, voilà, j'avais quelques idées comme ça qui étaient floues, que j'ai creusées. Certaines sont tombées. Donc, c'est l'intérêt d'une résidence. Et finalement, je me suis axé sur redécouvrir les villes. Fait, dans mon cas, la découvrir, parce qu'il y a plein de coins que je connais pas. Donc, maintenant, quand on va me parler de Québec, en étant en France, je vais pouvoir dire, ah oui, d'accord, je sais de quoi on me parle, parce que moi, je connaissais que des petits bouts, finalement, pour y être passé tout le temps de côté. Alors que là, j'ai fait vraiment, de la première journée à la dernière journée, j'ai sillonné tous les petits coins de Québec, en sachant, ça s'est rattaché à ça, puis j'ai fait des croquis. Donc, je me suis arrêté un peu partout, et j'ai dessiné, j'ai rempli un carnet de croquis de tous les endroits qui m'intéressent à Québec.
Et on est plus marqué par les paysages, par le côté industriel, par la vieille ville, par les banlieues, la rivière.
Ben, par tout ça, moi, il y avait les côtés que je connaissais, c'était les côtés assez touristiques, Frontenac, les grosses rues. Donc, ceux-là, je les ai évités et j'ai fait tout le reste. Donc, en fait, un bout de Limoilou, je suis allé dans la... Moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune au Reed Paper qui était après Daishowa, parce que les Japonais l'avaient racheté. Maintenant, c'est White Birch. Et j'ai pu contacter les gens de White Birch, leur demander si je pouvais rentrer dans l'usine. C'était un des projets que j'avais au départ. Et ça s'est concrétisé, c'est-à-dire que j'ai pu les contacter. Ils connaissaient mon travail, donc c'était super. Et ils connaissaient mon père qui a travaillé 30 ans là-bas. Donc j'ai pu rentrer et faire des croquis à l'endroit où j'ai travaillé 3 étés, donc c'était vraiment intéressant parce qu'il y a plein de souvenirs qui sont revenus. Et je me suis promené alentour. Donc j'ai commencé par travailler sur cette usine qui pour moi représente beaucoup Québec. C'est-à-dire que Québec c'est aussi un port, c'est aussi une vieille ville très touristique, mais bon ça on la connaît par cœur. Donc j'ai envie de travailler sur le côté un peu brut, un peu dur, parce que on a une image de Québec quelque chose comme étant très beau, très clean et puis très légère quelque part, parce qu'elle est sur un cap, on dirait qu'elle s'envole. Moi j'aime le côté massif des choses. Donc voilà, je suis allé dessiner du béton, de l'usine et les gros bateaux, et après les petites villes, les murs et le côté militaire en fait de la ville, elle est aussi très très pierre pesante. Donc ça m'intéresse, donc ces petits coins-là, et puis les églises qui sont un peu perdues, un peu coincées entre des gros bâtiments. Donc chaque coin qui m'intéresse finalement, donc je fais une vision à ma façon de Québec.
Et tout ça sillonné à vélo, j'imagine en partie du moins?
À vélo, à pied, ouais, à vélo. Mais à vélo c'est pas mal, mais le problème quand on fait des croquis à vélo, on passe trop vite. Mais donc pour se rendre à un endroit c'est bien, mais après il faut laisser le vélo là et marcher, parce que autrement on rate plein de trucs. Moi il m'est arrivé de remarcher à des endroits que j'avais fait en vélo en me disant ah là cet angle là est intéressant parce que là ça cache un truc et puis on voit le Concorde qui n'est pas juste du bout. Et voilà, j'ai fait 3-4 fois le Concorde. Je trouve pas très beau, mais à dessiner il est assez intéressant.
Oui, c'est emblématique dans la ville, il prend de l'espace.
Oui, c'est un curieux bâtiment, ouais. Et en fait, d'emblée, il est pas beau, mais le dessiner, il y a cette forme ronde qui repose comme un chapeau. Et graphiquement, il est plutôt intéressant à dessiner. Et puis, pour l'avoir fait 2-3 fois, maintenant, je le trouve plutôt sympathique.
Et qu'est-ce que tu cherches, justement, quand tu te promènes comme ça, que tu explores Québec, Jérusalem ou Pyongyang? Qu'est-ce que tu cherches côté image? C'est vraiment, c'est instinctif? C'est, OK, ça m'intéresse, je me lance? Ou est-ce que t'as quand même des critères, des éléments que tu sais que ça va faire un bon croquis ou que le croquis va être rentable, entre guillemets?
Ouais, il y a tout ça. Et justement, j'ai traité Québec comme j'ai traité Jérusalem. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une méthode de travail qui même dans la balade, dans la recherche de ce qui m'intéresse à dessiner, il y a des choses qui m'intéressent pas, donc je dis ça, non, en fait, c'est trop frontal, c'est trop touristique. Après, le château Frontenac, par exemple, j'avais envie de le dessiner, mais j'ai pas envie de le dessiner en étant sur la promenade du gouverneur, parce que déjà, il est immense, ça va me prendre 3 jours à le faire. Et je voulais un angle, donc à un moment, je suis descendu dans le vieux port, et on voit juste un petit bout qui dépasse d'un toit. À côté d'un bâtiment des années 30 qui est dans la cour de la fabrique, qui est assez joli. Donc ça m'intéressait de le faire, ce bâtiment des années 30 et qui monte, et il y a du feuillage, et au bout, pop, il y a le château Frontenac. Et ça m'intéresse. C'est une vision qui pour moi est un peu nouvelle et qui me parle aussi parce que c'est graphique. C'est un peu un travail de photographe qui cherche un angle intéressant. Mais avec le croquis, ce qui est mieux, c'est qu'on peut isoler un élément et enlever tout ce qui nous intéresse pas à côté. Le photographe pourra pas faire ça. Il y a des bateaux, il y a des fils, il y a des arbres. Il m'est arrivé de tout enlever ça parce que moi, je veux voir le bâtiment et je peux le travailler en deux angles différents. Et à un moment, je faisais, j'ai fait de la même façon. Un angle du parlement, et il y avait un arbre qui me cachait. Je dessine la partie que je vois, je me déplace et je fais l'autre partie, donc je dessine en deux angles différents, mais ça fait qu'un seul dessin à la fois. Le photographe peut pas faire ça, par exemple. Bon, ça c'est assez passionnant, et puis travailler par rapport à un sujet, c'est-à-dire qu'il y a cet arbre où il y a un boulet de canon qui est très connu sur
la Grande Allée,
et je l'ai dessiné derrière de très très haut en isolant que cet arbre, et en faisant très rapidement les bâtiments à côté. Un photographe peut pas faire ça, et ça va être une photo générale avec tout ce qui l'entoure. Donc ça c'est une approche qui m'intéresse. Et voilà, après c'est des angles un peu cocasses. J'ai pas envie de tout donner aux spectateurs d'un coup. J'ai envie qu'ils puissent dire, ah oui, ça c'est de là, mais on voit pas tout. Et ça me plaît.
Et est-ce que t'accompagnes ça de notes impressionnistes, de recherche d'éléments pour te rappeler, au-delà du côté visuel, mais ce qui englobait, ou des impressions que tu voudrais aussi passer si éventuellement tu décides d'en faire une note dans un blog, d'en faire un petit bouquin ou quelque chose?
Les impressions viendront plus tard en regardant les croquis, parce que c'est assez étonnant quand on décide de se mettre dans un coin, de dire tiens, ça là je vais le travailler. Bon, moi ça me prend 15-20 minutes maximum faire mon croquis, mais c'est quand même 20 minutes assez intense où on regarde, on est là présent, et quand on regarde un croquis qu'on a fait, il y a une mémoire qui s'attache au croquis, en fait. Mm-hmm. On se rappelle de la chaleur qui nous tombait dessus, qu'on avait hésité sur cette table pique-nique-là ou cette table pique-nique-là pour s'asseoir, pour avoir le bon angle, et c'était pas parfait, il aurait fallu attendre les deux, mais bon, moi j'ai pas de chaise. Et ça va rester dans le croquis. Mm-hmm. Et après, voilà, dans quelques mois, 6 mois, 1 an, si je revois ces croquis, et il y aura toute cette mémoire qui va revenir, moins le temps présent. Et du coup, là, il y a quelque chose de plus qui se rajoute, c'est-à-dire que il y a un fil qui s'est fait avec le temps, et puis on se rappelle, ah oui, il y avait ça, et il y a une ambiance de Québec qui va ressortir de tout ça, de tous ces croquis et de tous ces moments que j'ai passés, en disant, ah oui, il y avait comme une espèce de côté fantomatique de ce vieux temps français qui était là, avec ces vieux murs français en pierre, et après les murs anglais alentour qui ont fait ça. Donc voilà, il y a quelque chose de plus qui se rajoute, et ça, il y a que ça, parce que si on prend une photo, et voilà, ça prend une fraction de seconde, clac, on a cherché. Mais je sais pas, je suis pas photographe, hein, mais je sais que moi, je m'assois et je passe 20 minutes, j'ai dessiné les trois portes. Et voilà, je sais exactement le moment où ça s'est passé. Il y avait du bruit, c'était le soir, les gens sont passés, il y en a qui me regardaient très furtivement. Et tout ça, c'est ancré dans le dessin. C'est assez étonnant. Et c'est tenace. C'est-à-dire que moi, il y a des dessins que je regarde qui datent de 10 ans et je me rappelle où j'étais quand je l'ai dessiné.
Et d'une certaine façon, ça reste aussi dans la logique qu'on faisait parallèle avec Jérusalem ou les autres chroniques de voyage. Le recul est important, dans le fond. On se rappelle dans Chronique Birmane notamment, où tu relates le fait que tu essaies de dessiner sur place, donc un peu ce qui se passe, mais que finalement, en fait, je me rappelle une entrevue où tu disais, mais ça marche pas, c'est pas quelque chose, on est trop dedans. Ouais. Faut au contraire avoir ce recul-là pour pouvoir bien raconter une expérience.
Oui, parce qu'en Birmanie, j'avais beaucoup de temps devant moi. Je me suis dit, bon, je crois que j'ai assez de matière pour travailler sur un album. Je vais pas attendre de rentrer chez moi, je vais le commencer tout de suite. Mais ça marche pas, fait pas pour moi, parce que j'ai trop le nez dedans. Ce qui fait que quand j'ai tout relu mes pages, il y avait des choses qui marchaient quand j'étais là, sur le moment, en Birmanie, dans un contexte bien spécial. Mais en tant que lecteur, après, en étant en Europe et en relisant ça, une fois que c'est fini, ça marchait plus. Donc j'ai enlevé une douzaine de pages et je me suis dit, il faudrait pas que je refasse ça, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Donc maintenant, je le fais plus. Et quand j'ai fait Jérusalem, j'ai trouvé plutôt l'idée d'aller faire du croquis pendant une année. Mais j'avais pas beaucoup de temps, donc j'avais que quelques heures dans ma journée. Et je me suis dit, je vais me balader, je vais faire des croquis. Il faut dire que c'est très inspirant, parce que Jérusalem, bah, c'est comme Québec, en fait. Il y a plein de coins qu'on découvre. Et encore aujourd'hui, je me baladais, alors que ça fait un mois que je sillonne la ville. Et ah, il y avait encore ça que j'avais pas vu, il faudrait aussi que j'aille là. Donc voilà, c'est Jérusalem, c'est pareil. Et il y a une église dans un coin, on cherche, on trouve. Il y a plein de jolis angles à faire, donc ça, c'est pas, on peut passer facilement une année à la dessiner. Puis il y a toutes les alentours. Donc il y a de quoi faire et j'avais toute l'année devant moi pour dessiner. C'était vraiment, c'était une année sabbatique très agréable. Et voilà, ces croquis-là m'ont aidé après à faire mon livre, parce qu'au lieu d'avoir une photo, j'avais mon croquis. Souvent, je me référais à des croquis que je les avais faits, parce que je les connais par cœur, plutôt que de chercher dans les photos que j'ai, 300 photos avec des enfants et tout. J'allais plutôt avec le croquis. Et j'ai pas fait l'erreur de le faire sur place. C'est-à-dire, je suis revenu, j'ai attendu un mois ou deux ou trois. Et je me disais, pour Jérusalem, par contre... En revenant, je me disais, je crois pas que j'arriverai à faire un bouquin là-dessus, franchement. Ça me paraissait trop compliqué. Parce qu'en étant là-bas pendant une année, je côtoyais des gens qui étaient des humanitaires, des gens de des ONG qui avaient vécu pendant 10, il y en a 15 ans à Jérusalem et qui avaient vu plein de périodes, parce que tout va très vite là-bas. Et ils avaient une connaissance du lieu, de la situation qui était immense. Donc moi, je parlais avec eux, c'était passionnant, j'ai appris plein de trucs. Et en revenant, j'avais tout ça en tête, comme une espèce de... Et je me suis dit, je pourrais jamais mettre tout ça dans un album, ce qui était vrai. Mais l'idée, c'était pas de tout mettre ce que j'avais appris dans l'album, c'était de mettre... Et c'est ça que j'ai compris quand je l'ai commencé, parce qu'au début, je me suis dit, ça va... Si j'essaie de faire un album là-dessus, ça va être trop compliqué, ça va être une thèse, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer un peu plus que ce qu'on connaît sur Israël, parce qu'on connaît la scène politique israélienne, on connaît Netanyahou, et puis les actions qu'ils font, et en gros, voilà, on a une idée de ce qui se passe là-bas. Beaucoup plus que plein de conflits. On parle du Congo à Kinshasa ou Kivu, même en Birmanie, on connaît rien du tout, alors que c'est des conflits qui sont très longs et très complexes. Et donc voilà, finalement, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer un peu plus que ce qu'on connaît de la scène israélienne, mais pas trop pour que ça devienne une thèse. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu. Et je me suis concentré que sur un aspect, parce qu'évidemment, quand on était là-bas, on parlait des réfugiés, du problème des réfugiés qui est immense, qui est un des plus gros problèmes là-bas qu'ils ont. Mais le problème, c'est que c'est pas graphique. On en parle, c'est du blabla, et moi je les ai pas vus. J'ai vu des camps de réfugiés qui sont plus tellement, enfin, qui sont des camps maintenant en dur, et ils se sont installés. Ça fait partie de la ville maintenant. Voilà, c'est pas très graphique. Alors que je me suis dit, je vais parler que des problèmes des colonies, parce que ça, c'est des endroits, c'est des villes, c'est des architectures. Je peux les dessiner, je me promène dedans. C'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup plus facile d'en parler.
Oui, et narrativement, en fait, tu te places au centre du récit, un peu comme témoin observateur. En fait, du moins ton personnage qui est un pan de ta personnalité, ta curiosité, peut-être une certaine naïveté aussi là-dedans. Et ça te donne un moteur dramatique aussi pour nous amener d'un lieu à l'autre, pour sentir ton quotidien, mais pour découvrir aussi le lieu qui t'entoure, qui t'a entouré pendant une année.
Ouais, voilà. Moi, quand j'y vais, je sais même pas si je vais faire un livre. Enfin, je suis ma compagne pendant une année et je me dis, voilà, je vais faire moi ce que je peux, parce qu'elle, elle va bosser, moi je vais faire avec. Je prends des notes, et à un moment, au bout de 6 mois, je me dis, oui, je crois qu'il y aura assez de trucs à faire, mais pendant ce temps-là, je prends des notes et je me balade. Et après, je relis tout ça, je me dis, ça, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Et quand on fait de l'autobiographie, en fait, c'est un personnage qui est moi, mais en même temps, c'est un personnage dans le sens que c'est que quelques facettes de ma personnalité, parce que le côté naïf, le côté dépassé par la situation et qui comprend pas tout très rapidement, ça c'est vraiment moi, et qui est toujours un peu perdu, ça aussi c'est moi. Mais il y a aussi d'autres facettes, mais en fait ils sont pas très pertinentes pour l'histoire que je raconte, donc je les mettrai pas. Et c'est la même chose pour les personnages secondaires. Ma compagne, qui est au boulot très sérieuse, donc je la dessine souvent par rapport au boulot, donc elle passe pour quelqu'un d'extrêmement sérieux, alors qu'elle est plutôt joviale dans la vie, elle rit beaucoup. Mais ça, évidemment, dans le contexte de la bande dessinée, j'en ai pas de besoin de ce côté-là, donc je le mets pas en avant. Voilà, et c'est aussi beaucoup plus drôle de la faire passer pour quelqu'un de très sérieux, ce qu'elle est au travail, et moi qui suis derrière et qui essaie de comprendre ce qui se passe. Ce qui fait que c'est un personnage qui a ce côté un peu Buster Keaton, un peu dans des situations extraordinaires, mais ça fonctionne toujours comme ça, parce que voilà, c'est pas non plus un documentaire sur moi, c'est utiliser les facettes qui sont intéressantes pour la narration que j'utilise.
Oui, et pour intégrer peut-être un peu d'humour aussi, parce que il y a de l'humour un peu dans l'ensemble de ce que tu fais, mais notamment dans les chroniques, justement, il y a des moments plus drôles qui permettent aussi, je pense à Jérusalem, en fait, s'il n'y avait pas l'humour qui était là-dedans, ben des sections qui sont peut-être un peu plus sérieuses, un peu plus dramatiques, comme tout l'épisode de l'opération Plomb durci, ressortirait peut-être un peu moins en termes de ton. Ça permet de jouer narrativement avec les émotions aussi, quand même.
Voilà. Par contraste, comme moi, mon penchant naturel, c'est l'humour. Et même si c'est Israël, il y a quand même des situations qui sont drôles. En fait, quand les ultra-orthodoxes, il pleut, ils mettent des sacs en plastique qu'on trouve dans les supermarchés sur leur chapeau pour pas les abîmer quand il pleut un petit peu. Moi, je le dessine, je trouve ça comique, je trouve ça très drôle. Pour eux, voilà, c'est le quotidien et c'est assez banal. Mais c'est le décalage qui fait que moi, je vais trouver ça drôle et probablement mes lecteurs aussi. Et après, voilà, c'est mon trait donc assez naturel de croquer ce qui est un peu bizarre dans le conflit, dans les religions et dans la situation en général des expatriés qui vivent dans des pays qui comprennent pas trop. Et forcément, quand c'est pas possible, c'est-à-dire que l'opération Plomb durci et quelques autres endroits comme en Birmanie aussi, où là l'humour a vraiment pas sa place, je me suis contenté, j'ai pas trouvé d'autre façon que de raconter factuellement le 27 décembre, voilà, ils ont attaqué, et nous on l'a vécu comme ça, le 28, le 29, on a senti ça. Et comme il y a de l'humour partout, sauf là, du coup, voilà, ça met en perspective, ça rend le truc un peu plus pesant et un peu plus réaliste peut-être aussi. Hein.
Oui, surtout dans le contexte où nous aussi on l'a vécu, mais on l'a vécu à la télévision. Mais en même temps, en lisant ça, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on a l'impression que vous aussi là-bas, même si vous étiez vraiment proche de la bande de Gaza, il y avait une certaine distance. Et je pense que c'est quelque chose que tu as cherché à mettre de l'avant aussi. C'est un peu comme si c'était à côté, mais comme si c'était très loin aussi en même temps.
Oui, parce que c'était à 1h30 de voiture. Moi, j'étais allé à la porte, à Erez. Une fois, j'ai reconduit ma compagne. On a pris la voiture. Ça a pris 1h30. Après, on est rentré le soir. Donc, c'est pas très loin. Et dans cet petit endroit, normalement, dans un territoire qui se fait bombarder, il y aura des colonnes de réfugiés qui vont partir en attendant que ça se calme pour revenir. Parce que là, ils peuvent pas sortir. Donc, il y avait aucun débordement. Ce qui est unique au monde, je crois. Je pense pas qu'il y a d'autres endroits où c'est possible que un territoire se fasse bombarder et que les gens puissent pas sortir. Et du coup, ma compagne qui allait une fois par mois à Gaza connaissait des gens, elle les avait à la radio et comment ça se passait. Mais tout ça était assez, finalement, les meilleures informations qu'on avait, c'était comme le reste du monde. On regardait Al Jazeera avec ce reporter américain qui était là-bas. Et on se disait, elle est pauvre. Et puis voilà, j'allais acheter ma pinte de lait au coin de la rue chez l'arabe. Et puis, l'ambiance était bizarre parce que c'était le quartier arabe et on se disait que, voilà, c'est des Palestiniens et là-bas, eux, ils passaient un sale moment. Et voilà, je le décris et curieusement, voilà, c'était à 1h30, mais tout le monde regardait ça à la télé comme le reste du monde finalement.
Et la dernière image, en fait, pour ceux qui ont lu le livre, en fait, vont savoir de quoi je parle, où t'es sur la plage avec Nicolas, je crois, et vous regardez dans le fond un avion de chasse qui passe pour aller tirer des bombes à 1 heure de route finalement.
Ah, nous, on était exténués parce que tout à coup, nos compagnes qui étaient dans des missions plutôt relativement petites, se sont retrouvés au devant de la scène pour sa compagne qui travaillait à la Croix-Rouge internationale et ma compagne qui travaillait à MSF. Tout à coup, il y a eu, ça y est, c'était une mission d'urgence de premier plan et il y a eu 3 fois plus de monde qui est arrivé en l'espace d'une semaine. Donc, ils ont eu du boulot jour et nuit. Et à un moment, après ces 2 semaines, ça s'est un peu calmé au niveau du boulot. Enfin, on n'est plus soufflé. Et on était faire un tour à la plage. Et là, curieusement, il y avait encore des bombardements qui se faisaient. On a su, après, ça continuait, ça s'est pas arrêté d'un coup. Et nous, on était à la plage et on voyait des avions qui étaient militaires. Je sais pas si c'est des bombardiers. Je suis pas assez expert pour savoir ça. Mais il y avait quand même une drôle d'ambiance d'être à la plage tranquille. Et à 1h30, et en avion, ça va peut-être, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes. Voilà, cet avion allait peut-être, regarder ce qui se passe à Gaza. Ou en tout cas, il se dirigeait vers là-bas. Et voilà, cette espèce de situation complètement absurde. C'était intéressant de le décrire au lecteur, dans quoi on peut se retrouver quand on est dans un pays comme ça.
Et en même temps, Chronique de Jérusalem, pour moi, tu me diras si c'est une description qui peut bien cadrer, mais c'est un peu l'histoire de deux solitudes, finalement, de deux peuples qui vivent ensemble sans se parler, séparément ou...
J'avais commencé à faire une page où je mettais en parallèle cette histoire de deux solitudes qu'on connaît bien nous au Canada, qui représente les Anglais et les Français. Et je voulais, en gros, expliquer que venant du Canada, on est habitué à avoir cette espèce d'ambiance de deux solitudes, et que là, c'est pas deux solitudes, là, c'est deux pays qui se regardent en chien de faïence. C'est vraiment pas chacun de son côté tranquille, c'est chacun de son côté, mais avec des étincelles de temps en temps et une ambiance de, comment dire, fait c'est assez. Nous, on est arrivé le lendemain d'une attaque au bulldozer dans les travaux. Il y a un Palestinien, je crois qu'il était de Jérusalem-Est, ouais, qui a essayé d'écraser le plus de voitures possible avec son tractopelle. Et donc voilà, un attentat horrible. Et on arrive quelques jours après, donc l'ambiance est un peu pesante. Et toute l'année, il y a eu des accidents comme ça, pas de cet ordre-là, mais il y a eu des heurts, des accidents, des mecs qui rentrent en voiture sur des soldats. Et il y a une ambiance, là, on n'est plus dans deux solitudes. Ce qui fait que j'avais essayé de commencer avec un parallèle comme ça, mais j'ai pas trouvé les mots, parce que je suis plus quelqu'un du dessin quand même. Et voilà, j'avais essayé de faire un parallèle, mais qui marchait pas très bien. Et ouais, j'ai laissé tomber, j'ai pas mis.
Au fait, puis qui devient un peu personnifié par le mur, qu'on retrouve en cours de récit, puis qu'on ne perd plus par la suite, là.
Oui, là, ils sont là au niveau du mur, ils sont chacun de leur côté, et c'est plutôt des emmurés que des solitudes. Ils sont chacun emmurés de leur côté.
Et visuellement, ça semble aussi t'avoir animé un peu. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'imagine que c'est tellement omniprésent que...
Surtout quand on habite... Enfin, évidemment, moi, si j'avais habité dans un autre quartier de Jérusalem, ça aurait été un livre tout à fait différent. Mais en étant dans le quartier arabe, on est tout de suite du côté de Ramallah, si on prend la voiture. Et on est entouré par trois points cardinaux, par le mur. Donc moi, j'avais ma voiture et j'allais faire des croquis. Et pour descendre un peu dans le sud, voir le désert, ben on traverse le checkpoint et puis on passe au travers du mur. Et donc il est toujours là, ouais. Et c'est assez fascinant parce que du coup je l'ai pris une fois comme sujet, voilà, comme je l'ai à Québec, je me suis dit tiens, faut que j'aille dessiner le bungee que j'ai fait ce matin. Et là je me suis dit bon, faut que je fasse le mur une fois. Et puis en fait j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il serpente dans les petites montagnes, dans le désert, et on le voit partout. Il y a que à l'entour de Jérusalem qu'il est embêtant, sinon c'est qu'une petite clôture électrifiée. Et là, bon, à dessiner, c'est pas intéressant. Là, c'est-à-dire que graphiquement parlant, le mur contourne des maisons, fait des angles, et puis se faufile dans des montagnes. C'est un peu comme la muraille de Chine à certains endroits. Et graphiquement, c'est très intéressant, et j'aurais pu faire mon année quasiment à dessiner que ça. Et c'était la première fois, ou en tout cas, c'est assez sympa quand on fait du dessin, d'avoir un thème. Parce qu'on peut faire du croquis sur une ville, ça devient un thème. Mais d'avoir à l'intérieur de la ville un thème, c'est-à-dire que je pourrais faire les murs de Québec ici, faire toute la muraille avec les portes, avec la citadelle. Et voilà, ça ferait une jolie exposition parce qu'on pourrait faire le tour de Québec en croquis par la muraille. Donc ça sera et du coup, c'est assez prenant pour un artiste d'avoir un sujet d'observation et de le travailler à fond.
Et dans le contexte de Chronique de Jérusalem, on l'a vu passer tous et toutes, en fait, le Fauve d'art à Angoulême 2012. Est-ce que c'est devenu un peu une consécration, un aval? Comment on reçoit une récompense comme celle-là aussi pour un livre comme celui-là?
Oui, consécration, oui, parce que moi, c'est le dernier livre que je vais faire comme ça, qui est le quatrième chapitre d'un grand bouquin pour moi, qui a quatre parties, c'est-à-dire la chinoise, la nord-coréenne, la birmane, et puis là, celle de Jérusalem. Et ils ont voulu aussi marquer cette année la BD de reportage, pour laquelle je suis un représentant. Et ça a été une consécration parce que là, ça clôt pour moi une partie de mon œuvre, c'est-à-dire ça sera les livres où j'ai voyagé longtemps. Il y aura peut-être des petits voyages, mais pas cet ordre-là. Donc ça pour moi, ça conclut vraiment quelque chose. Et du coup, d'avoir reçu le prix à la fin de tout ça, c'est un peu pour l'ensemble de ces quatre livres-là que j'ai eu l'impression de l'avoir reçu. Ouais.
Oui, quatre livres, quatre étapes, quatre regards sur le monde aussi. Ouais. On va poursuivre peut-être un peu sur les Shenzhen, les Pyongyang, les chroniques birmanes, peut-être parler aussi des autres ouvrages, les Aline, Albert, les Louis, également Guy Delisle. Vous restez avec nous. On prend une courte pause. On revient tout de suite après à La vie en BD.
Tout ce qui tombe, trois décennies, quatre histoires d'amour, six destinées qui s'entremêlent. Tout ce qui tombe, un texte de Véronique Côté dans une mise en scène de Frédéric Dubois. Une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre des Fonds de Tiroir, présentée par Hydro-Québec. Tout ce qui tombe, à l'affiche du Théâtre du Trident jusqu'au 6 octobre. Information 641-8131 ou letrident.com.
Besoin de piquant? Allumez Télé-Québec.
À Curieux-Bégin, soirée épicée avec ma grande complice, la chef Colombe Saint-Pierre, et dans l'assiette, les alléchantes saveurs de Kamouraska.
La télé s'allume avec Curieux-Bégin, ce soir 21h.
Télé-Québec, l'autre télé.
La Rencontre internationale d'art performance de Québec 2012 vous convie à sa 17e édition du 6 au 9 septembre et du 13 au 15 septembre. Des artistes en art action et art performance provenant de la Colombie, d'Uruguay, d'Espagne, de la France, de Suisse, du Vietnam et de Birmanie. Des tables rondes présentées par le Centre interuniversitaire de recherche sur les lettres, les arts et les traditions. La RIAP à l'édifice CDTI Le Soleil au 390 Saint-Vallier-Est dans le quartier Saint-Roch. Informez-vous sur riap-performance.org. Visitez notre page Facebook.
Organisé pour la première fois à Granby, Québec et Dolbeau-Mistassini, Bouge pour la Croix-Rouge est un rendez-vous solidaire ayant pour objectif d'amasser des fonds permettant à la Croix-Rouge de poursuivre sa mission. Venir en aide aux sinistrés. Le 23 septembre prochain, en solo, en équipe, en famille, avec les amis et collègues de travail, vous êtes invités à courir, marcher ou rouler avec nous. 5, 10 ou 25 km sur la piste cyclable de la rivière Saint-Charles. Renseignements sur bougepourlacroixrouge.ca.
Pour la première fois à Québec, la fanfare Sio Carlia. Considérée comme l'un des meilleurs groupes de party de la planète, la fanfare Sio Carlia captive et insuffle une nouvelle énergie aux musiques gitanes. Leur groove des Balkans les ont fait se produire dans toutes les boîtes branchées de la planète. Venez recharger vos batteries au Cercle, mercredi 19 septembre à 20h. Billets en vente au Cercle et sur lepointdevente.com. Une présentation Antenna et CKRL. Le Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est.
Vous êtes toujours à la vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et on a toujours le plaisir d'être en compagnie de Guy Delisle, et qui est de passage à Québec, on le rappelle, en fait au terme d'une résidence qui s'est étendue tout le mois de juillet. Et notamment, je mentionnais tout à l'heure, avant la pause, en fait, une petite énumération des livres, des albums qu'on te connaît. Donc, des albums plus humoristiques, d'autres plus expérimentaux, certains sans parole, certains avec parole, des trucs plus documentaires, plus journalistiques. Quand même, dans le fond, Guy Delisle, un cursus assez varié côté album, côté production. Est-ce que c'est un peu un désir, justement, d'explorer plusieurs champs, de pas se cantonner à un certain style, mais de mener plusieurs types de travail en parallèle?
Ah oui, c'est ce qui a changé avec l'ancienne école, la génération d'avant, quand je pense au Maurice. Je pense souvent à Maurice dans ce genre d'exemple. C'est-à-dire que lui, il a fait Lucky Luke, finalement, toute sa vie. C'est un magnifique dessinateur, Maurice. Et aujourd'hui, je me dis, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait pu faire avec un autre type d'histoire, par exemple, un truc pour enfants, vraiment pour beaucoup plus jeunes ou pour plus adultes. Mais bon, à l'époque, voilà, c'était assez cloisonné et il a fait sa série toute sa vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs éditeurs, on peut aller papillonner à gauche, à droite, présenter des choses pour enfants chez un et puis des trucs plus adultes chez un autre, ou même chez le même éditeur parce qu'il y a beaucoup de collections. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se fait plus facilement. Moi, j'ai eu l'habitude de changer souvent de style parce que je travaille dans l'animation et puis donc d'un projet à l'autre, il faut s'adapter à un autre style. Et je crois que j'avais ça avec moi au début, même dans le même album comme Aline et les autres, le style change beaucoup. Maintenant, ça s'est un peu calmé, mais bon, il y a toujours des styles qui peuvent. Quand je pense à Moebius qui faisait ses autobiographies, qui avait un dessin des fois un peu cartoon presque, et qui allait faire du Blueberry après. On a un peu tous en soi plusieurs registres, dépendant de comment on va. Ressentir une histoire, l'appréhender. Et évidemment, moi, je fais Louis au ski, donc c'est pour enfants. Il y a un dessin beaucoup plus graphique qui va ressortir et qui va être plus mignon. Et après, voilà, maintenant, je sais que je vais travailler là sur une autre histoire qui va être plus de l'ordre du réel. Et j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir un autre type de dessin qui va venir avec. C'est comme si ça s'imposait. C'est-à-dire que par rapport au sujet qui est plus sérieux, j'ai l'impression qu'il y a un dessin un peu plus sérieux qui va en ressortir. C'est assez étonnant. Et puis pourquoi pas, parce qu'on peut présenter un éditeur maintenant des choses différentes. Et puis ça lui plaît pas, il le prend pas.
Puis en tant que BDiste, est-ce qu'il y a des styles dans lesquels toi tu trouves justement plus confortable, ou t'as l'impression, ben ok, j'ai essayé ça, mais dans le fond pour l'instant c'est peut-être plus ça qui me représente, qui me reconnaît, qui me...
Disons, quand on prend Shenzhen et on regarde avec Chronique de Jérusalem comment, pour moi, le style autobiographique a pu changer. Et maintenant, il s'est installé. C'est-à-dire que j'aime bien ce côté ligne claire, très simple, avec un texte aussi qui est très simple, parce que mon texte s'est simplifié avec le temps. Et au fur et à mesure, voilà, je trouve qu'il y a un équilibre qui s'est fait entre la simplicité du texte et la simplicité du dessin. Et maintenant, je crois que si je continuais dans cette branche de dessin, d'histoire, ça s'est stabilisé. Tant mieux, parce que de changer tout le temps, ça peut être fatigant. Sauf que maintenant, voilà, si je fais du livre pour enfants, je sais où je m'en vais. Et voilà. Mais maintenant que je veux faire un autre genre d'histoire, on dirait qu'il y a un autre style de dessin qui veut s'imposer.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de travail, justement, de croquis pour se préparer à ces transitions-là? Au contraire, on attaque un peu le récit, puis on voit justement, avec quelques tentatives, comment ça va se placer, comment ça s'enligne.
Il faudrait, je crois, que je me mette dans le mode exercice et puis essayer de stabiliser quelque chose. Mais en fait, j'en suis assez incapable, parce que tant que c'est pas le vrai truc, on dirait que je m'y mets pas vraiment sérieusement. Et c'est pareil pour Shenzhen, on voit entre la première page et la dernière page, c'est assez différent en fait. Et il y a quelque chose qui s'est installé au bout de 170 pages, et il y a quelque chose qui s'installe avec les histoires autobiographiques au fur et à mesure des quatre albums. Mais voilà, tant pis, ça sera un peu différent du début. Ça me paraît pas un gros problème.
Et en même temps, à l'intérieur même aussi des récits autobiographiques, donc d'un même récit, donc ça corrobore un peu ce que tu dis. J'ai l'impression il y a une volonté aussi de varier le ton, de varier le style. Donc exemple Chronique Birmane, donc il y a des épisodes qui sont plus humoristiques, presque une structure de gag, des épisodes qui sont plus narratifs, autobiographiques, où on est dans le récit, et il y a des épisodes aussi qui sont tout simplement des suites d'images, en fond un peu en référence à une certaine animation, presque, si on les mettait côte à côte, donc sans parole. On joue un peu avec les styles pour bien servir l'histoire qu'on veut conter, le moment qu'on veut présenter.
Ouais, parce que ça, c'est des outils narratifs que j'ai développés, le fait de faire des histoires sans texte, avec des tout petites cases. Dans le premier livre, parce que je sortais de l'animation et je me disais, on parle pas souvent du mouvement, ou en tout cas, l'image peut décrire le mouvement sur une page ou deux. J'ai toujours trouvé que c'était joli quand je faisais de l'animation. Et je me disais, on pourrait étirer le temps comme ça dans des cases, un peu comme dans Akira. Moi, quand j'étais jeune et que j'ai vu Akira, j'étais ado, que j'ai vu ces poursuites en moto, où sur quatre pages, on a l'équivalent d'un quart de seconde, je crois, et les motos qui dérapent, et il y a le coup qui part. Je trouve ça fabuleux, ça me fait complètement rêver. Et quand et je me suis dit, voilà, là, on étire le temps. Et là, c'était une autre formule, c'est pas du 46 pages, on était dans du manga. Donc lui, Otomo, il met 10 pages s'il a envie de faire une poursuite. Et puis voilà, je trouvais cette liberté de ton extraordinaire. Et le manga était, dans ce sens-là, une influence pour moi. Parce que on peut aussi faire ça, tiens, il y a plein de choses qu'on peut faire en bande dessinée, qu'on a un peu ouvert les portes depuis 10-15 ans. Il y a encore plein d'autres choses à explorer, et chaque année je lis des albums en me disant, ah oui, on peut aussi faire ça, on peut aussi utiliser le texte là, l'image comme ça, et il y a plein de formes possibles. C'est assez excitant de voir ce qui se passe de ces temps-ci, qui est d'après moi une âge d'or de la bande dessinée, ou en tout cas un renouveau. Et donc pour revenir à ça, j'ai voulu, voilà, faire des histoires, on étirait beaucoup le temps, jouer là-dessus. Et ces outils-là que j'ai fait dans Aline et les autres, Albert et les autres, après un moment, en Birmanie, je voulais parler des aspects touristiques du pays, mais j'avais pas envie de faire des cartes postales, j'avais pas envie de faire des grandes images, et je voulais pas trop m'arrêter dessus, mais je voulais quand même les évoquer. Et je dis, ah oui, voilà, je vais faire des petites cases, et ce sera des petites séquences rapides où le récit s'accélère un peu, juste au niveau de l'image, et après, paf, on revient à notre en Birmanie, où on était. Donc je parle comme ça de Bangkok, du lac Inlay, des endroits très touristiques que j'ai vus, qui sont magnifiques, mais je voulais pas commencer à faire des grands paysages, de toute façon, je serais incapable de, par exemple, de raconter la beauté, un coucher de soleil sur le lac Inlay. Moi, je peux pas le faire. Je peux pas le raconter dans une de mes bandes dessinées. Déjà, ça m'intéresse pas des masses. Mais même si j'essaie de le faire, de faire un joli dessin, ça sera jamais assez beau et ça pourra jamais transposer ce que j'ai ressenti devant un très beau paysage. Donc je le sais, je l'ai déjà essayé, je me suis déjà cassé la gueule quelques fois sur ce genre de transposition et ça marche pas. Alors que des petites cases où on sent le mouvement, on sent la vie, plein de petits détails touristiques, l'excitation du voyage, ça peut passer.
Et ça peut devenir aussi un recours dramatique intéressant. Je pense, si on revient à Chronique de Jérusalem, par exemple, la séquence du checkpoint où tu traverses le checkpoint d'un côté à l'autre à pied, j'ai l'impression que s'il y avait eu du texte sur cette séquence-là, ça aurait été complètement autre chose, là.
Eh bien, j'avais fait une version où il y avait du texte. C'est-à-dire que là, il y en a pour une page et demie où on traverse le checkpoint. Et j'avais d'abord fait une seule page et à la fin, je disais, voilà, traverser le checkpoint, c'est quelque chose d'assez dur et de froid, voire de déshumanisant, quelque chose comme ça. Et en relisant, à un moment, mes pages, je me disais, on sent pas tellement le truc. Et je me suis dit, pourquoi pas rajouter une page où j'explique plus en détail que par l'image, moi-même qui traverse le checkpoint. Et quand je pense qu'il y a des gens qui le traversent une fois par jour, voire deux fois les retours parce qu'ils sont à l'extérieur et ils doivent revenir et ils n'ont pas aussi le permis pour rester. Je passe le checkpoint, on voit ce que c'est, de montrer le passeport dans une vie de centaine où on voit pas qui est derrière, et puis finalement on est compressé comme des bestiaux là. Et j'ai pas à l'écrire, et du coup c'est plus puissant. Si j'avais dit c'est quelque chose de très dur et pas très sympa, alors que là voilà, on le traverse, le lecteur est avec moi, il le traverse avec moi. J'ai eu raison de l'étiqueter en image.
Là, j'ai quatre ouvrages de documentation pour des amortis et un récit.
Quand je fais ce genre, quatre, on en met trois assez concentrés, ce qui moi me convient parfaitement. Et après, il y a tous ces outils. Je peux avoir un dialogue entre deux personnes, je peux avoir un dialogue off, avoir juste une image sans texte, une image qui va être supportée par une voix off. Donc voilà, il y a tous ces outils de narration. Et souvent, voilà, il y a quelque chose que je dois raconter et vient à moi un outil qui me paraît la façon la plus efficace parmi tous les outils que j'ai en bande dessinée d'utiliser pour faire passer mon message d'une façon efficace et la moins chiante possible, parce qu'il y a toujours ça. C'est-à-dire que je me dis toujours, bon, si je commence à décrire le truc, ça va être trop lent, donc je vais faire plutôt comme ça. Par exemple, j'arrive à l'aéroport et là, il fallait que j'explique le nouveau contexte, c'est-à-dire que j'arrive, maintenant Louis a 5 ans et maintenant j'ai une fille qui s'appelle Alice, donc il faut que j'écrive, on arrive de l'aéroport, c'est reparti pour un tour et maintenant mon fils a 8 ans et j'ai essayé de l'écrire et le crayon me tombait parce que c'est tellement chiant à écrire, mais j'étais obligé, il fallait bien que j'explique la situation, que maintenant c'était nouveau, c'était comme ça. Que je me dis non, et je suis passé aux autres pages, je suis revenu, ça m'a pris un moment. Et à un moment, voilà, je me suis dessiné à l'aéroport, moi, ma compagne, un petit garçon, une petite fille, et je fais une flèche, j'écris Louis en parenthèse 5 ans, Alice entre parenthèses 3 ans. Et voilà. Et là, en une case, j'ai épargné au lecteur un gros pavé de texte chiant, des images pour accompagner ça, et voilà. C'est ce que j'aime dans la bande dessinée, ça peut être très efficace, très concentré, très pédagogique et en même temps très rigolo.
J'ai l'impression que c'est ce qui fait aussi qu'il y a de plus en plus de BD documentaires qui se fait où on a l'impression que ça devient un outil qui est de plus en plus utilisé pour justement exprimer, documenter.
Oui, il y a un côté, on n'a pas le son, c'est sûr, c'est pas qu'un documentaire à la télé. Mais on peut, je pense à ce que fait Squarzoni, qui lui est vraiment dans le détail, ou ce que fait Joe Sacco, qui va chercher avec un archiviste. Il y a le texte, il y a vraiment la force du texte, parce que ça sera très précis son texte. Il y a même des détails, des notes à la fin, avec le travail qu'il a fait avec l'archiviste, pour dire que ça vient de cet endroit-là, et qu'il y a eu ça à telle année. Et après, il travaille sur cette matière. Donc là, c'est vraiment le côté figé du texte et du dessin. On n'est pas dans la légèreté du propos qui va être dans un documentaire, qui peut être plus ou moins vrai. Là, il travaille sur des bases très solides. Et pour ça, c'est bien, un peu comme Squarzoni avec sa Saison brune, qui parle du réchauffement climatique. Il a quand même passé, lui, 2 années, il racontait ça dans une conférence, à lire que des livres sur le sujet, pour se documenter. Et après, il a commencé à dessiner. Donc, c'est voilà, c'est une somme de travail, ce livre. Et par la bande dessinée, c'est un travail très sérieux. Mais bon, c'est une somme de livres, de concentrés en quelque chose de 400 pages sur le sujet. C'est assez étonnant. Et de le faire en bande dessinée, ça peut être aussi un outil, une espèce d'outil fondamental pour montrer que, voilà, avec ça, on peut vraiment travailler sur ce problème.
Et de ton côté, en fait, tu mentionnes Sacco, justement, c'est ses bouquins sur la Palestine qui sont hyper documentés. Toi, de ton côté, de ce que j'en ai compris, t'es arrivé quand même assez vierge de connaissances. Dans le fond, t'as pas cherché à te documenter outre mesure avant de mettre le pied en Israël. Inversement, par contre, en Corée du Nord, là, j'ai l'impression que tu t'étais documenté un peu plus ou moins. C'est ce que j'ai lu dans quelques entrevues. Donc, c'est deux pans, deux axes, sachant peut-être que d'un côté, tu allais avoir beaucoup d'informations disponibles sur place. Mm-hmm. Dans Corée, j'imagine, mm-hmm. peut-être un peu moins, mais mm-hmm. est-ce que c'est un peu ça qu'on se dit aussi?
C'est ce qui est arrivé, ouais. C'est-à-dire que moi, c'était deux contextes assez différents. En Corée du Nord, j'avais vu pas mal de gens qui revenaient de la Corée du Nord pour y avoir travaillé dans le dessin animé, et je leur disais, alors c'était comment? Et ils avaient presque rien à dire, autre que s'ils s'étaient fait chier, qu'il n'y a pas de bar et qu'il n'y a pas de café pour s'amuser le soir. Et je me disais, ouais, mais fait, évidemment, en fait, tu, je sais pas, tu te rends pas compte où t'étais et tout. Et c'est comme s'ils savaient pas trop où ils étaient allés. Donc, je trouvais ça assez frustrant. Je me suis dit, si j'y vais, je vais me documenter. Donc, à un moment, on me proposait d'y aller. Et j'ai lu tout ce que je pouvais sur la Corée du Nord en me disant, au moins, quand ils vont me raconter des trucs, parce que je savais que là-bas, je trouverais pas d'infos. Donc, c'était complètement différent pour la Birmanie ou Jérusalem, où je savais que j'allais tomber chez des gens qui sont là depuis des années, qui travaillent dans l'humanitaire. Et après, j'ai rencontré des gens qui travaillaient à la Croix-Rouge et puis des journalistes. Donc, moi, je papotais souvent avec un des correspondants de France 24. Il connaissait très bien chaque détail de la situation, donc c'était passionnant, il pouvait répondre à plein de questions. Et je savais, en allant là-bas, que je tomberais dans ce genre de population, disons. Donc voilà, je ne me suis pas documenté autre mesure, et on a su, ne serait-ce qu'un mois avant qu'on partait, et je travaillais sur un projet, je n'ai pas eu le temps de lire quoi que ce soit sur Jérusalem ou sur Israël.
Et en même temps, ça devient, on parlait en première partie d'entrevue, justement, de la notion de récit, de personnage un peu naïf, dépassé par les événements, mais ça peut venir servir, alimenter un peu justement, parce que on sent qu'il y a un désir de s'informer, tu vas chercher l'information, mais en même temps ça t'aide à te positionner en tant qu'observateur, à au départ pas prendre nécessairement parti, mais à te laisser imprégner aussi, j'imagine, par l'endroit.
Oui, je crois que pour moi c'était un avantage, hein, peut-être de partir sur une page blanche, en fait, de ne pas avoir trop d'informations sur la situation. Et après, avec la curiosité, ben voilà, moi j'avais un an devant moi, et en me baladant, ah c'est ça les colonies, moi j'avais même jamais vu aucune image d'une colonie, là j'avais vu aucune photo du mur, je me rappelle pas d'avoir vu quoi que ce soit, donc quand je l'ai vu, ça m'a fait un choc, et ça c'est pas mal, parce que du coup je peux le retransmettre dans la bande dessinée, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça pour la première fois, alors que si t'es au courant, t'es presque déjà blasé, ah oui, ben voilà, évidemment, c'est comme ça, donc j'avais cet avantage-là peut-être, et puis bon, il se trouve que je suis assez curieux, parce que en sachant que j'étais là pour un an, il y a des grosses chances, je me suis dit j'en profite au maximum. Donc après j'ai voulu visiter avec les colons, avec les soldats qui ont vécu là-bas leur année de enfin, ils étaient soldats vers Hébron, et après ils font des visites guidées, donc c'est passionnant. Et après il y a aussi les settlers, les colons qui sont à Hébron, qui proposent aussi de faire des visites guidées. Donc ça aussi, c'était passionnant de comparer les deux, ce que je fais dans la bande dessinée. Et puis de me promener dans la vieille Jérusalem, sachant que j'avais une année. Et puis voilà, on voit un truc, on se dit c'est quoi ce coin de rue bizarre. Et voilà, il y a des gens qui sont là pour nous expliquer. Donc c'est assez passionnant. C'est-à-dire que l'information va très très vite. On voit un truc, on se dit c'est quoi? Ah oui, mais ça c'est à cause de ça. Ah d'accord. Donc ça va très vite. Et voilà, sur une année, après, ça serait dur de pas comprendre ce qui se passe quand on est une année là-bas.
Et en même temps, ce qui est distingué peut-être aussi, outre en termes de durée, le séjour en Israël, c'est le fait que tu as choisi de faire un blog aussi à l'intérieur du séjour, sur ton séjour, sur place, qui est sans nécessairement être devenu le livre, servi aussi, j'imagine, un peu d'inspiration, ou c'était vraiment un outil parallèle?
Je me suis dit là-bas, je vais, comme j'avais pas beaucoup de temps pour moi, pour travailler sur mes projets de bande dessinée, je me suis dit bon, je vais faire des croquis, mais je vais aussi faire un blog, parce que j'en ai jamais fait, et je vais essayer de travailler l'écrit, donc à part, sur certains événements que je vais vivre pendant cette année-là. Donc voilà, le vrai blog avec une photo, puis un texte, etc. Donc ce que j'ai fait pendant l'année, et voilà, j'ai pu travailler d'une part le dessin et d'une part le texte séparément. Et ça a été un très bon exercice pour moi. Et en revenant, je me suis dit ben voilà, si je fais une BD, je vais tout simplement traduire, transposer ce blog que j'ai relu au début, sauf qu'en fait ça marchait pas du tout. J'ai relu le blog. Bon, d'abord, il y avait des photos là-dedans qui peuvent pas servir du tout pour la bande dessinée. Et à un moment, j'ai décrit en début d'album BD la journée que j'ai passée à Calandia, dans un checkpoint où ça a chauffé parce que c'était le Ramadan et il y a beaucoup de gens voulaient passer, mais on n'en laissait pas passer trop. Puis à un moment, il y a eu des pierres, il y a eu des lacrymogènes, et puis il y a des pierres qui ont commencé à voler dans les airs. Donc moi, j'ai vécu cette journée-là. C'était assez fort parce que j'étais là depuis à peine un mois et j'ai pris des notes. Je l'ai mis sur mon blog. Et c'était très long, un texte sur le blog. Et j'essaie de le transposer en bande dessinée, c'est ce que je fais, et ça prend, je crois, quasiment 10 pages. Donc, en BD, on peut pas faire ça longtemps, parce que là, à coup de 10 pages, sur un article, ça peut pas se transposer. Donc finalement, à la fin, je lisais plus le blog, en fait. Je revenais sur mes notes, ce que j'ai fait très rapidement, et je relisais à partir de mes notes, ça je vais le mettre, ça je vais le mettre, et ça je vais le mettre. Puis voilà, je faisais un résumé du mois, en me disant, faut que je parle de ça, c'est important. Puis après, voilà, j'enlève tout ce que, au fur et à mesure, tout ce que j'avais choisi de mettre dedans. Je suis revenu finalement à la méthode que j'adoptais pour les autres livres.
C'est parce que c'est un peu, c'est deux médiums différents, au bout du compte, on en fait pas avec le blog, ce qu'on fait en album. On fait autre chose et ça permet aussi d'autres types d'expérimentation.
Oui, moi, l'écriture, c'est pas mon premier outil. J'ai dû un peu le forger et en écrivant le blog, voilà, j'ai travaillé un peu l'écriture un peu plus à long terme, parce que dans une BD, on met quoi, 10 phrases maximum, dans une page ou 12. Bon, il faut qu'elle soit bien forte, parce que comme il n'y en a que 10, il faut qu'elle soit bien faite. Alors que dans un blog, voilà, on peut y aller, on peut mettre du texte, c'est des paragraphes, et puis c'est très différent. Donc ça, je l'ai fait, ça, j'ai un peu répondu à une certaine question que je me posais au niveau de l'écriture. Mais c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Je suis quelqu'un beaucoup plus du dessin et qui va accompagner ça avec du texte et non pas à l'inverse. Le blog, c'est plutôt du texte que t'accompagnes quelques dessins. Donc là, de toute façon, mon blog, tout récemment, je l'ai utilisé pour faire presque que de la BD. En tout cas, de mettre mes premières histoires de bande dessinée sur le blog. Et c'est une autre façon de l'utiliser. Je trouve ça très agréable.
Oui, et en même temps, ça va amener aussi vers un autre projet. Je pense que le prochain livre de Guy Delisle, c'est Le Guide du Mauvais Père. Et ça, ça vient du blog aussi.
Voilà, c'est assez nouveau comme histoire parce que en revenant d'Angoulême, on avait comme tradition, les gens de l'association, de faire des petits strips. Et donc des quatre images pour résumer des petits trucs qu'on avait vécu à Angoulême. Mais c'était drôle parce que tout le monde en mettait et on pouvait lire différents points de vue de chacun sur des tout petites histoires. Je me suis dit, je vais le faire moi sur mon blog, parce que là, bah, l'association, ils font pas lapin, donc le magazine dans lequel on publiait ces strips. Et je me suis dit, bon, bah, comme c'est sur le blog, je vais le faire plus long. Et finalement, voilà, j'ai fait une histoire qui faisait 5-6 dessins, et après 12, 24, et puis finalement 38. Parce que là, bah, c'est du blog, donc on peut y aller, il n'y a pas de limite, en fait. Et ça m'a ouvert des portes, et ça m'a libéré de plein de trucs, en fait. Avec juste du texte, c'est-à-dire un dessin qui peut être même copié, et le texte change, et j'ai trouvé ça extrêmement libérateur. Et après, ça m'a amené à reconsidérer un projet que j'avais, donc le Guide du Mauvais Père, que je voyais d'une façon très formelle, avec des carrés, des décors et tout ça, à reprendre ces idées-là, et à les dessiner d'une façon très très vite, et tout scanner ça à la fin de la journée, et faire un montage, avec beaucoup de texte, et des fois, des images qui sont que copiées, collées. Et parce que là, c'est surtout le dialogue qui fait l'humour. Le dessin le supporte d'une façon très légère. Et bien tout ça va donner, que j'ai mis sur le blog une fois, deux fois. J'ai fait 5 ou 6 histoires sur ce même thème, dans le Guide du Mauvais Père. Et ça a plu à des éditeurs et ça sortira finalement en janvier, parce que j'en ai fait plus. Et il y en aura une autre moitié qui sortira et ça va faire un livre pour janvier. Donc c'était pas prévu pour un livre, donc je me disais, si ça fait un livre, pourquoi pas. Mais je me suis servi du blog pour l'amorcer. Et ça a donné une forme que moi j'aurais pas fait si on m'avait dit, tiens, ton idée, on l'aime, fais-la en livre. C'est sûr que ça aurait été très différent.
Et la résidence de Québec risque de se retrouver aussi sur le blog, qui deviendra peut-être une manière de canaliser certains éléments selon ce que tu verras à faire avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as vu te dessiner ici.
En partie, je vais mettre très certainement les croquis que j'ai fait dessus. Donc, on pourra se balader comme je me suis baladé avec mes croquis à Québec pendant ce mois-là. Ouais.
Et parallèlement, tu as mentionné aussi un autre projet qui est un peu plus réaliste côté livre, côté dessin. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus?
Oui, c'est un projet que je traîne depuis très longtemps, et là, je vais enfin m'y mettre en septembre parce que je l'ai travaillé par étapes. Mais il se trouve que revenant de voyage, dans la foulée du voyage, les autres prenaient le pas. Donc je les mettais toujours de côté. Là, comme on va plus repartir en voyage, je vais pouvoir m'y mettre sérieusement. C'est l'histoire d'un gars qui travaillait dans l'administration à MSF, qui s'est fait kidnapper. Donc il a passé 3 mois en Tchétchénie et il a réussi à s'échapper. Donc au bout de 3 mois, il s'est réveillé. Il s'est retrouvé à 4h du matin dans un village tchétchène en se disant... bon, ok, maintenant, comment je fais pour arriver à l'ambassade? Et j'avais lu son histoire dans le journal, et je l'évoque en plus dans Shenzhen, sur une case, le fait qu'il se soit évadé. J'ai toujours trouvé intéressant les histoires de gens qui s'étaient fait kidnapper, parce que on les prive de liberté, et je trouve ça assez, pas curieux, mais je trouve ça fascinant, tout simplement. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, il m'a raconté son histoire en détail, j'ai trouvé ça fascinant, et je l'ai enregistré, on a travaillé sur une première mouture, et là il faut que je recommence une deuxième mouture pour le faire lire, pour qu'on revienne dessus, et voilà, ça fera un gros bouquin. Donc je l'attaque en septembre, enfin ça sera le prochain gros livre que je vais faire dans l'année, et je vais me concentrer sur l'enfermement, comment on fait pour tenir, parce que lui il croyait rester là 24 heures, et après c'était un week-end, et après c'était une semaine, et après c'était 2 semaines, et là c'est 1 mois et 2 mois, et après ça va finir quand tout ça? C'est-à-dire que là il disait c'est pire que d'être un prisonnier, parce que le prisonnier il sait pourquoi il est là, même si c'est injuste, même si c'est faux, mais il sait pourquoi, et il sait combien de temps il va rester. Donc il a une date, lui il a pas de date, ça peut être après Noël, l'été, quand. Donc voilà, à un moment il était très mal, mais il fallait quand même qu'il tienne, et ça m'intéresse de raconter ça.
Alors, plusieurs éléments à surveiller, donc à courte échéance, à longue échéance. Guy Delisle, merci beaucoup.
Merci.
Et voilà sur un autre petit extrait de la formation Keppel Craft, tiré de leur album L012. C'est ainsi qu'on se dirige vers la conclusion de cette première édition de La Vie en BD. Je vous rappelle, en fait, plusieurs moyens d'entrer en contact avec l'équipe de l'émission, avec moi et mes collaborateurs, via le web, notamment 2 blogs, 2 pour le prix d'un. Alors, notamment lavieenbd.wordpress.com. Vous allez trouver notamment les podcasts des émissions, les menus des émissions à venir. Également, pour voir mes commentaires, mes clins d'œil à l'univers de la BD, c'est auvoir.ca/Raymond-Poirier. Et également, on est sur Facebook. Et sinon, on se lance activement les prochaines semaines, les semaines à venir, déjà des menus très chargés, beaucoup de sorties qui s'en viennent cet automne, dont on a hâte de vous parler. On a hâte de voir aussi, on en parlait avec Monsieur Delisle, les sorties de janvier. En fait, il y a du beau matériel qui s'en vient aussi de ce côté-là. Mais à courte échéance, notamment la semaine prochaine, on aura l'occasion de s'entretenir avec des gens du collectif Je me souviendrai. C'est un collectif BD et essais autour du printemps érable, du conflit étudiant d'il y a de ça quelques mois. Également, l'auteur Jacques Lamontagne sera avec nous pour nous parler de son nouveau projet Van Helsing contre Jack l'Éventreur. Alors voilà pour la semaine prochaine. Et d'ici là, c'était un plaisir d'être avec vous ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Je m'appelle Raymond Poirier et c'était La Vie en BD.